Ja, guten Tag, bonjour. Maintenant, malheureusement, j'ai le regrettable devoir de vous parler encore un petit peu avant que vous puissiez trinquer, comme on vient de nous l'expliquer. Je suis désolé de ce petit retard au démarrage et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. En tout cas, je suis très heureux et honoré de pouvoir vous parler ici pour ce 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Et si je peux faire une petite ou commencer par une petite remarque personnelle, c'est qu'avant ce qui n'est pas un scoop, c'est qu'avant ce 60e anniversaire, il y en a eu un 50e, un 40e et un 30e. Et lors du 30e, il y a eu des festivités qui ont eu lieu ici auxquelles j'avais participé. Donc, c'est un peu mon premier rapport concret humain avec Sarrebruck lorsque, je crois que c'était en fait le 30e anniversaire de l'OFAGE qui a été lancé quelques mois après le traité de l'Élysée. Donc, on avait pendant quelques jours, le SR était aussi de la partie, bénéficié d'une fréquence FM. On avait émis également dans la vieille ville, dans la rue, sur une fréquence FM et fait une radio franco-allemande. Voilà. Donc, merci à l'OFAGE aussi et merci à Sarrebruck à l'époque de m'avoir déjà accueilli. Alors, 30 ans plus tard, on fête de nouveau ce même traité de l'Élysée. Et on a un petit peu l'impression qu'on, en partie, on ressasse et on répète un certain nombre de choses, mais évidemment, il y a eu aussi beaucoup d'avancées. Certaines ont été citées dans les discours avant moi. Aujourd'hui, ce matin, plus exactement à la Sorbonne, il y a eu cette grande cérémonie que certaines et certains ont peut-être suivi avec les discours des présidentes des deux parlements et avec les discours du chancelier Scholz et d'Emmanuel Macron. On a de nouveau entendu des discours très presque pathétiques sur le franco-allemand. L'avenir de l'Europe repose sur la locomotive franco-allemande, a dit Olaf Scholz. Et puis Emmanuel Macron a dit que l'Allemagne et la France étaient ou devaient être les pionnières de la refondation de l'Europe, ce qui semble vouloir dire, si on l'interprète, eh bien que cette Europe doit être refondée. On va voir dans la déclaration qui sera adopté tout à l'heure après le Conseil des ministres franco-allemands, si on a déjà quelques pistes sur cette refondation et sur ce que les deux pays vont proposer en ce sens. On a aussi entendu le président français parler de deux âmes dans une même poitrine dans son discours. Encore une fois, beaucoup de grands mots pour cette cérémonie de ce matin et qui rappelle d'autres déclarations. On a entendu avant moi quelques citations des décennies dernières. Et il y a aussi tous ces symboles qu'on connaît tous, certains ont été évoqués, cette iconographie franco-allemande, ces images iconiques qui ont marqué les dernières décennies. Bien sûr, l'accolade surprise d'ailleurs pour Adenauer entre le chancelier et le général de Gaulle, juste après la signature dans le salon mural de l'Élysée. Du traité de l'Élysée, la poignée de main, bien sûr, entre François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun en 1984. Il y a 20 ans, on fêtait le 40e anniversaire du traité de l'Élysée à Versailles, également un lieu de mémoire franco-allemand par excellence comme Verdun, cette fois-ci, bien sûr, dans un sens positif, avec les deux parlements qui y siégeaient il y a 20 ans. Et puis, on se rappelle aussi cette image aussi due au cliché un petit peu qui n'était pas forcément pensé de la tête d'Angela Merkel qui repose sur l'épaule de François Hollande après les attentats à Paris en 2015. Donc des symboles, il y en a beaucoup qui, pour une relation, on l'a entendu, qui s'est heureusement normalisée, qui a surmonté les fossés, les blessures du passé, qui s'est peut-être aussi normalisée, ce qui est une bonne chose, évidemment. Il vaut mieux une relation normalisée qu'une relation pleine de conflits, j'entends par là des conflits armés. Mais il faut aussi, évidemment, se renouveler pour que cette normalité ne devienne pas une routine, et peut-être que de la routine aussi, peut-être qu'à cause de la routine, peut-être on ne se... Sinon, on ne s'éloigne pas, mais en tout cas, on perd peut-être un peu de la fraîcheur dans la relation. En tout cas, ce qu'on peut dire, on a entendu parler du sondage qui a été fait dans la région sur la coopération transfrontalière. Un autre a été fait au niveau national, donc avec un échantillon représentatif d'Allemands et de Français qui montrait un attachement profond avec 4/5 des Français, 4/5 des Allemands, pour cette relation, estimant qu'elle est nécessaire pour faire avancer l'Europe. Et donc, on n'a pas un repli, malgré tout, sur le national, malgré des crises qui sont très importantes. Même résultat, d'ailleurs, dans le sondage présenté il y a quelques jours par l'Office franco-allemand pour la jeunesse auprès des jeunes, même si, il faut le dire, ils sont très pessimistes et ils sont assez moroses, ces jeunes Français, ces jeunes Allemands. La pandémie est passée par là, elle n'a pas laissé que des traces dans votre région. On s'est renouvelé, on l'a dit, quelques dates ont été citées avec nouvelles étapes ont été citées, le traité avec la Chapelle à plusieurs reprises, qui vous concerne aussi bien sûr avec la coopération transfrontalière, ou bien la création, j'évoquais Versailles il y a 20 ans, la création d'un conseil des ministres franco-allemands qui se réunit en moyenne une fois par an. L'année dernière, on a eu élections oblige et un certain retard, ou en tout cas du dernier conseil de Fontainebleau, une petite exception. On a, au-delà du symbole de cette réconciliation, mot d'ailleurs qui ne figurait pas dans le traité de l'Élysée, on a aussi deux pays qui travaillent étroitement ensemble. Ça a été dit, il n'y a sans doute aucun pays au monde qui ont autant de relations que la France et l'Allemagne. On a aussi, avec cette imbrication très importante, au niveau le plus haut, donc au niveau des pays, mais au niveau des régions, mais aussi de la société civile à tous les niveaux, on a aussi une machine à compromis, en quelque sorte. C'est aussi ce qu'a mentionné Olaf Scholz ce matin. Des politologues avaient publié un livre qui s'appelait, je crois, l'atelier des compromis. Et donc, comment à partir de divergences qui peuvent être profondes, qui peuvent être moins profondes, arriver à trouver des convergences. Et on sait que au sein de l'Europe, rarement des avancées n'ont pu être possibles sans un compromis, sans des propositions franco-allemandes, qui d'une façon ou d'une autre, à travers les profils, les cultures politiques, économiques, etc. des deux pays, souvent ces compromis étaient aussi pouvaient devenir des compromis que le reste de l'Europe pouvait reprendre. Alors c'est plus facile à 6, 10, 12 ou 15 qu'aujourd'hui à 27, je vous l'accorde. Et on le voit aussi avec les conséquences de la guerre en Ukraine et certaines divergences entre la France, l'Allemagne et les pays membres de l'Union européenne de l'Est de l'Europe. Alors il y a vraiment des fondamentaux qui restent dans ces divergences, ou pour être moins négatif dans ces différences, et qui restent jusqu'à aujourd'hui et qui se sont de nouveau cristallisés ces derniers mois avec cette remise en cause fondamentale qu'a constitué la guerre en Ukraine et toutes les conséquences qu'elle implique en aval. Il y a la relation transatlantique et la relation avec l'OTAN, avec classiquement des relations ou une version différente, une perception différente entre la France et l'Allemagne. C'est évidemment encore plus visible sous De Gaulle, qui prônait une relation plus distanciée vis-à-vis des États-Unis. On sait que le traité de l'Élysée était presque un traité, est presque devenu un texte mort-né en raison du préambule adopté par le Bundestag dans la foulée, qui insistait sur cette relation transatlantique et sur la nécessité de la Grande-Bretagne d'intégrer à l'époque la communauté européenne, dont De Gaulle ne voulait pas. Et il a fallu, plus ou moins, si on simplifie, que De Gaulle quitte le pouvoir pour qu'on puisse avancer un peu plus dans le franco-allemand, surtout à partir de l'arrivée de Schmitt et Giscard au pouvoir. Autre gros point de divergence ou de différence, c'est les différences aussi en matière de défense, le rôle de l'armée en France et en Allemagne pour des raisons politiques, et en Allemagne en raison de la dernière guerre, évidemment, sont très différentes. Les interventions extérieures, évidemment, en France, elles sont, j'allais dire, quelque chose de presque évident et d'assez courant, alors qu'en Allemagne, avec une armée parlementaire, on sait très bien que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et de beaucoup moins populaire aussi, il faut le dire. Et il y a aussi des différences aussi en matière de collaboration industrielle pour l'armement. On le voit aussi on l'a vu ces dernières semaines avec l'avion du futur. En ce qui concerne aussi les traditions en matière d'exportation d'armes. Différence aussi en matière d'économie, de finances, le rôle de l'État, la politique industrielle. En Allemagne, c'est quelque chose qui a longtemps été beaucoup moins... On a vu ça de façon beaucoup plus suspecte. Et aussi également des différences pour les finances publiques, ce qui se retrouve aussi lorsqu'on veut avancer en Europe, c'est-à-dire la question des dettes, la question des dettes communes pour l'Europe, la question du respect d'un certain nombre de règles, l'énergie évidemment, et c'est un dossier assez central depuis la guerre en Ukraine, à la nécessité surtout pour l'Allemagne de revoir complètement son réapprovisionnement ou son approvisionnement énergétique. Je participais vendredi à une journée franco-allemande avec des tables à Verdun, avec des tables rondes sur les dossiers un petit peu délicats actuellement, dirons-nous. Et lorsque la table ronde sur l'environnement et l'énergie a eu lieu, ça a commencé à être très animé. Il n'y a pas de nom d'oiseau qui a volé, mais enfin, on sentait bien qu'on ne se volait peut-être pas dans les plumes, mais en tout cas, on se faisait très rapidement des reproches sur le rôle du nucléaire en France pour les Allemands, ou bien au contraire pour l'importance du charbon, les émissions de CO2 en Allemagne vues du côté français. Et avant d'évoquer ces derniers mois et les problèmes qui ont surgi et la façon dont peut-être on va les surmonter, je dirais aussi qu'on a une relation quand même déséquilibrée. Il faut quand même appeler un chat un chat. Je crois qu'en ce qui concerne les connaissances du pays voisin, la connaissance de la langue, l'importance que joue le pays voisin dans les médias, on a quand même une connaissance du pays voisin qui est plus importante en Allemagne qu'en France, et ça crée quand même un déséquilibre. En plus, à cela s'ajoutent des conséquences politiques, il y a tout cela. Là, on voit avec les conséquences de la guerre en Ukraine, à nouveau des craintes en France que peut-être l'Allemagne regarde plus vers l'Est et moins vers l'Ouest, et que si les élargissements dont on parle pour l'avenir aient lieu, cela se renforcerait. Il y a aussi l'angoisse en France de ces découplages aussi économiques par rapport à l'Allemagne, toujours présent. Et je sais qu'à l'automne, quand il y a eu des... Les bisbilles actuelles ont été particulièrement mises en avant. J'ai regardé différents talk-shows à la télévision française où on avait quand même l'impression que des ressentiments ou des choses qui, on pouvait le penser, appartenaient au passé, réagissaient peut-être un peu trop vite à la surface et que peut-être plusieurs décennies n'avaient pas forcément porté tous les fruits qu'on aurait pu espérer. Alors, j'évoquais la guerre en Ukraine. Déjà, c'est une césure qui peut-être peut être comparée à celle qu'a pu être la réunification allemande pour la relation bilatérale, peut-être aussi l'élargissement de l'Union européenne au début des années 2000. En tout cas, d'un seul coup, on a des thèmes que j'ai évoqués sur lesquels des différences existent, sur lesquelles il faut avancer, il faut trouver absolument des compromis, et c'est particulièrement difficile parce que on est moins proche. C'est le cas sur la défense, c'est le cas sur l'importance d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Voilà, Macron avait parlé il y a quelques années, avait estimé que l'OTAN était en mort clinique, c'était pas le terme exact. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que l'OTAN a fait un comeback et est de nouveau à retrouver une nouvelle jeunesse, si on peut dire ça, malgré la présence d'une guerre. Même chose évidemment pour l'énergie, où on a évidemment deux traditions totalement opposées et pour lesquelles il faut avancer. On a vu que c'était parfois difficile l'année dernière, par exemple sur le plafonnement du prix du gaz à l'achat pour l'Europe. Et c'est aussi les problèmes sont aussi, je crois, enfin, il peut y avoir des problèmes si on reste dans l'insistance sur ces différences ça ne peut être qu'une impasse. Si en permanence les Allemands reprochent le nucléaire aux Français et inversement, je crois qu'on peut pas avancer. Il faut absolument quelque part accepter la façon, les traditions du voisin et trouver des compromis. Et je crois aussi que ces périodes de crise, comme celles qu'on vit depuis bientôt un an, elles doivent aussi obliger à des à dépasser la routine, les pesanteurs bureaucratiques qui fait qu'on n'avance pas, et vous vivez ça aussi dans le frontalier lorsqu'il faut travailler ensemble, et que peut-être il faut parfois casser quelque chose qui existait pour essayer de passer à une étape supérieure, et ça c'est un peu l'enjeu. Mais on sait que ça arrive aussi, et c'est aussi la force du franco-allemand. Alors l'année dernière, ces difficultés ont aussi été un peu renforcées par le fait que de nouvelles équipes se sont mises en place à Berlin et à Paris. À Paris, il y a eu plus grande continuité. Et il faut aussi rappeler qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements politiques, pratiquement, on pourrait faire une longue liste à Paris, à Berlin. Ça a toujours été un petit peu difficile dans les premiers temps. Rappelez-vous, Chirac, Schröder, les deux, trois premières années, le traité de Nice considéré comme une demi-catastrophe, etc. Ça n'a pas été simple. Merkel, Sarkozy, au départ, c'était pas non plus le grand amour, si on veut utiliser une notion qui rappelle le couple dont on parle volontiers. En France. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué un rôle. Les problèmes de communication, sans doute, à Berlin, et celle plus particulièrement du chancelier, dont ce n'est pas forcément la qualité majeure, pour rester dans l'euphémisme. Des décisions prises en solitaire, sans consultation, et ça a été le cas des deux côtés. Voilà, il y a le Doppelwumms, on n'en a pas parlé à Berlin, on n'a pas informé Paris, et au mois de janvier, lorsqu'il y a eu l'annonce de livraison de chars légers à l'Ukraine, Macron est sorti le premier du bois, en quelque sorte, en se profilant comme le sauveur de l'Ukraine, si je caricature, alors que le lendemain, et donc Biden et Scholz ont signé un communiqué commun le lendemain. Là aussi, on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus coordonné. On voit que déjà dans le traité de l'Élysée, on peut lire, on va se consulter, on ne prendra jamais des décisions sans s'être mis d'accord avant. Et puis dans les faits, on voit que très souvent, c'est pas aussi simple que ça. Il faut dire aussi que je crois psychologiquement que la crise et le stress permanent dans lequel se trouvent les appareils gouvernementaux depuis le 24 février dernier font aussi que sans doute il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours. C'est d'autant plus compliqué à Berlin, où on a une coalition avec trois partis, ce qu'on n'a jamais eu au niveau national. On peut dire que c'était déjà le cas dans le passé avec la CSU bavaroise, mais en tout cas pas sous cette forme actuelle, et que déjà eux doivent arriver à s'entendre avant, et qu'on oublie parfois un petit peu de communiquer avec le voisin. On a vu toutefois que depuis l'automne, lorsque le conseil des ministres franco-allemands prévu à Fontainebleau a été repoussé, que Macron à Bruxelles a évoqué l'isolement de l'Allemagne, ça a créé quelque part un électrochoc. On s'est rendu compte que peut-être il fallait que des paramètres soient changés, et que la rencontre de Scholz avec Macron à Paris, où Scholz est venu donc tout seul, et la discussion qu'ils ont eue a sans doute été profitable pour arriver à trouver un nouveau modus vivendi, un nouveau modus operandi pour travailler ensemble. On a vu aussi ce ballet diplomatique avec des ministres de poids allemands, Lindner, Baerbock, Habeck, se rendre à Paris, rencontrer Macron, ce qui n'est pas dans l'usage protocolaire, puisqu'ils sont ministres, il est président de la République. Et donc on s'est efforcé aussi de débloquer des dossiers. Il y a eu cet accord, même si on n'accorde pas au terme de ce long feuilleton sur le SCAF, l'avion du système du futur, ou sur l'énergie. On a vu, il y a eu la préparation de cet accord avec un échange de gaz et électricité présenté et signé par Scholz et Elisabeth Borne, la première ministre, à Berlin. Donc on ne peut qu'espérer que ces petites crises qu'on a vues l'année dernière vont essayer de vont peut-être s'estomper. On verra ce que la déclaration finale après le Conseil des ministres va proposer. Il ne semble pas qu'on s'attende à des choses révolutionnaires ou à des grandes annonces. Mais le couple franco-allemand, je le disais, peut parfois aussi surprendre dans les périodes de crise qui aussi peuvent, sous la pression, obliger, je le disais, un peu casser des structures existantes, des usages, des routines pour aller au-delà. On l'a vu, et ça vous concerne directement, en 2020, lorsqu'il y a eu la fermeture des frontières, on l'a entendu à nouveau, qui a créé un traumatisme ici et qui, jusqu'à aujourd'hui, traverse, comme le monde, ce sondage, a un petit peu a laissé aussi des traces au sein de la population. Mais malgré cet épisode négatif pour le franco-allemand, en même temps, il y a eu aussi, on l'a entendu, la prise en charge des malades, etc. Tout n'a pas été négatif durant ce printemps 2020. On a eu ensuite la proposition franco-allemande, puis qui a débouché donc sur le plan de reconstruction européen avec des dettes communes, une partie de dettes communes qui était une étape majeure qui, quelques mois auparavant, notamment pour l'Allemagne, aurait été inconcevable, et on a eu un pas historique qui a été franchi. Donc espérons que après les difficultés des derniers mois, la crise historique actuelle ou la césure historique actuelle qu'implique la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences militaires, géostratégiques, économiques, sociales, voire les conséquences de l'inflation, eh bien qu'elles pourront conduire les deux gouvernements à franchir un nouveau pas qui aille au-delà des petits bricolages mécaniques, en quelque sorte, comme on l'avait vu il y a 3 ans avec le plan de reconstruction européen. Merci de votre attention et j'espère que bientôt vous allez enfin pouvoir boire comme on vous l'a promis. Merci.